En fait, on va lire le texte encore une fois qu'on a lu la semaine passée. Genèse 33, versets 1 jusqu'à 11. Et c'est la rencontre et la réconciliation entre Jacob et son frère Ésaü. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda : « Qui sont ceux-là qui sont avec toi ?» Et Jacob répondit : « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü demanda, « À quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré ?» Ça, c'était les troupeaux qu'il avait envoyés à l'avance comme cadeau. Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui t'appartient. » Jacob répondit, « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert. » En fait, en hébreu, c'est littéralement « accepte ma bénédiction qui t'a été offerte ». Ça, c'est un mot qui a un sens dans l'histoire parce que Jacob avait volé la bénédiction quand ils étaient jeunes. « Accepte ma bénédiction qui t'a été offerte puisque Dieu a comblé ma vie de grâce. Je ne manque de rien. » Jacob insista auprès d'Ésaü et celui-ci accepta. Ésaü dit « Partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau mourrait. » Une dernière diapo. « Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. » De mon côté, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Ésaü dit, « Je veux au moins laisser une partie de mes hommes avec toi. » Jacob répondit, « Pourquoi cela? Je veux seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le jour même, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Quant à Jacob, il partit pour Soukhot. Amen. Alors, c'est l'histoire qu'on a lue la semaine dernière. Et la semaine dernière, on avait vu l'histoire sous l'angle de... Bon, on regardait le personnage de Jacob. Et la leçon qu'on avait retirée, c'est que Dieu veut que je, c'est-à-dire toi ou moi, que je reflète qui il est. En acceptant comme Jacob... de demander pardon, même quand c'est difficile, et en acceptant de pardonner, même quand c'est coûteux, comme on voit Ésaü le faire. Cette semaine, on va regarder l'histoire à travers le personnage d'Ésaü, celui qui a été offensé il y a très longtemps. Mais aussi, on se pose la question, et c'est toujours bon quand on lit l'Ancien Testament de se poser la question, qu'est-ce que le texte est en train de me dire sur le, le, le personnage principal, la vedette numéro un du film, et c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'acteur principal dans toute la Bible, même si des fois, il faut lire entre les lignes pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. On a vu que Dieu travaille dans la vie de Jacob et l'a disposé pour cette rencontre. Il lui a donné générosité, hein, les cadeaux, humilité, il se met tout bas devant son frère, et aussi crainte de Dieu. Il voit Dieu dans la face de son frère. Dieu est aussi à l'œuvre en Ésaü. C'est ça qui est incroyable. On n'a pas beaucoup dans l'histoire sur ce qui se passe dans la vie d'Ésaü, mais c'est clair que Dieu était à l'œuvre dans son cœur et dans sa vie. On a vu que Dieu, ou on va voir que Dieu a utilisé le temps comme thérapie. Deuxièmement, Dieu incline son cœur. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Et troisièmement, Dieu fait d'Ésaü un symbole de lui-même que Jacob va vivre, mais que nous aussi, on va lire, on va comprendre. Je vais expliquer ça également. Alors, parlons de ces trois actions de Dieu que je viens de dire. Premièrement, Dieu utilise le temps pour guérir. Il y a plus que 20 ans que les frères se sont séparés, plus que 20 ans. Et plus que 20 ans depuis cette offense terrible, cette blessure qu'Ésaü a vécue aux mains de son frère Jacob et de sa mère. Et quand on lit l'histoire sur 12 chapitres, on parle surtout de Jacob, en fait, dans cette histoire, mais on se demande pourquoi tant d'années. Dieu avait fait des promesses à Jacob, et puis là, 20 ans se passent avant qu'on voit que ça commence à se réaliser. Pourquoi est-ce que Jacob reste si longtemps le prisonnier de son oncle Laban à Haran? Vous vous souvenez de cette partie-là de l'histoire? On n'en a pas beaucoup parlé, mais on en a parlé. Mais on découvre que Dieu est tranquillement en train de construire des choses dans la vie de Jacob. Tranquillement, à son rythme, au rythme de Dieu, j'entends. Et Dieu qui est à l'œuvre partout sur la terre, tout le temps, même dans l'univers, même dans les galaxies, puis il y a des milliards de galaxies, Dieu est présent et actif partout, mais particulièrement parmi les humains sur la terre. Il est en train d'agir, on apprend ici, dans la vie d'Ésaü, dans le cœur d'Ésaü, mais tranquillement et à son rythme. Et peut-être justement qu'Ésaü avait besoin de 20 ans lui aussi. Mais ça nous parle. Dieu est d'habitude beaucoup moins pressé que nous. Et quelqu'un disait dans la réunion de prière ce matin, Dieu, il est souvent dernière minute. Quand on prie pour quelque chose qui a une échéance dans notre monde à nous, tu disais, Francine, Dieu, il est souvent à la dernière minute. Il n'est jamais en retard, mais il est souvent à la dernière minute. Et ça, c'est vrai aussi. Dieu, il a son temps, son rythme à lui. C'est intéressant qu'on voit Jacob prier pour son frère, mais d'une manière un peu égoïste, c'est-à-dire, fais que mon frère ne me tue pas comme il a dit qu'il ferait. Fais que mon frère me pardonne ou en tout cas me fasse grâce. Et dans la tête de Jacob, dans son image de son frère, c'est resté figé pendant 20 ans. Et puis on est comme ça aussi. Mon frère Ésaü, c'est un homme physique, puissant, mais immature, impulsif, en colère, parce que la dernière fois que je l'ai vu, il était en bibitte contre moi. Et en plus, il veut me tuer. Et c'est resté dans la tête de Jacob. Et, mais Dieu est à l'œuvre et Ésaü est en train de changer. On est comme ça dans nos prières aussi. On prie pour quelqu'un, mais l'image de cette personne reste figée. Et on a du mal à croire que Dieu est en action. Et... ouais, comment comprendre le rythme de Dieu? Jésus nous aide. Il nous dit, il faut regarder les plantes qui poussent. Jésus avait dit, par exemple, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. En parlant de cette nouvelle période dans laquelle on est, où on partage la parole de Dieu dans le monde entier, bien, le royaume de Dieu, il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Et quand on dit sans qu'il sache comment, c'est parce que c'est invisible, c'est imperceptible. C'est comme l'agriculteur qui, du texte ici, qui jette le grain et puis qui attend, qui dort, qui vit. Il laisse Dieu faire les choses. Dieu est à l'œuvre dans le temps. Paul avait dit aussi que c'est lorsque les temps étaient accomplis que Dieu a envoyé son Fils. Galates 4, verset 4. Et quand on pense à ce que ça veut dire, on parle de siècle après siècle, millénaire après millénaire, génération après génération, nation, peuple, régime politique après régime politique. À un moment donné, le champ était prêt, la plante était mûre, Jésus est venu. Et des fois, ça nous aide à ralentir. Et moi qui suis pasteur d'une église et que j'aimerais donc voir certains changements, et je ne suis pas le seul, chacun de vous avait des désirs pour l'Église, des souhaits. Et dans nos prières, Dieu nous dit à tous, « Je suis à l'œuvre, mais soyez patients et continuez à prier. Ne désespérez pas, je suis à l'œuvre. » Même à l'Oasis, je veux de grandes choses pour l'Oasis. Et c'est le cas pour les individus. C'est le cas pour toi aussi. Peut-être que tu pries pour toi-même, tu as une blessure. Peut-être que tu es dans le deuil, puis tu te dis « jamais ma tristesse va partir ». Peut-être que tu te sens déprimé, tu te dis « jamais mon sens de désespération va s'en aller ». Dieu est à l'œuvre, il t'aime. Et parfois, le problème, c'est qu'il a un rythme qu'il faut que tu acceptes. Il faut que tu continues à prier dans le temps. Peut-être que tu pries pour quelqu'un d'autre. Il faut que tu patientes aussi, parce que Dieu est à l'œuvre dans le temps. Alors, voilà une vérité profonde. 20 ans après, Ésaü montre l'évidence que Dieu a utilisé le temps pour le guérir. Deuxième chose que j'avais dit, Dieu incline le cœur d'Ésaü. Et ça, c'est peut-être plus sur le champ. Dieu incline son cœur. Et j'ai eu une expérience cette semaine qui m'a aidé à comprendre ça. C'est qu'il y a de l'eau qui a commencé à couler dans mon garage. Du toit, dans le coin, en haut, à gauche, au fond. De l'eau après la grosse pluie et pendant la grosse pluie. J'ai pas aimé ça du tout. Un propriétaire de maison, bien, un locataire non plus, il n'aime jamais ça. Alors, nous devons faire réparer ou remplacer la couverture, la membrane de notre toit de garage qui est plat. Ça, c'est pas vraiment bien, les toits plats, mais on a ici, à l'Oasis aussi, on a un toit plat. Bon, en tout cas, bref, je ne suis pas venu ici pour vous parler des toits de garage. Et des membranes. Mais après la grosse pluie, mardi ou mercredi, je suis monté sur l'échelle et j'ai essayé d'observer le mouvement de l'eau dans la grosse flaque accumulée sur mon toit. Parce qu'il y a des poussières, des petits morceaux de feuilles. Puis j'ai essayé de voir par où ça coulait. Puis ça coulait dans plusieurs directions différentes. J'essayais de voir, il y a peut-être le signe de où est-ce qu'elle est, la fissure. Mais je n'ai pas réussi. C'est comme l'eau coule à deux ou trois endroits différents, puis c'est pas clair où est-ce qu'elle passe. C'est un mystère compliqué. Mais ça m'a fait réfléchir à un proverbe que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui dit ceci, à un proverbe de la Bible, qui dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Ça, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose... Je sais qu'il y en a pour vous qui priez pour des pays où il y a pas nécessairement des rois, mais des chefs qui, ça semble, désespéré. Il y a de l'injustice. Et puis, on prie, mais ça ne change pas. Mais ce texte nous rappelle, Dieu est le spécialiste d'incliner le cœur d'un être humain qui est en position de pouvoir sur moi ou sur ma famille ou sur ma nation. Il ne faut jamais être fataliste. Je pense, Jacob, il a vu son frère arriver avec 400 de ses milices parce qu'il était devenu un guerrier, Ésaü. En tout cas, c'est ça la prophétie qu'on a entendue de la bouche de son père. Et il a eu quand même une grosse peur. Mais, waouh! Dieu a incliné son cœur pour qu'il ait affection fraternelle envers son frère tout d'un coup, qu'il ait un esprit de pardon, qu'il ait générosité, qu'il ait aussi, à ce moment-là, une espèce de quiétude par rapport à sa propre richesse. Ça, c'est quand même quelque chose qu'un homme comme Ésaü, qui veut s'enrichir, il dit à son frère, garde tes possessions, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Combien d'entre nous seraient prêts à dire ça aujourd'hui? Moi, le Seigneur m'a béni de tout ce qu'il me faut. J'ai besoin de rien de plus. Écoutez, je ne vous blâmerai pas si vous leviez la main et dire, moi, je prie, j'ai besoin d'une nouvelle job. J'ai besoin d'un plus grand revenu. J'ai besoin d'une plus grande maison. Je ne vous blâme pas si c'est le cas. C'est correct de prier et de travailler pour ces choses. N'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit à tous, soyez dans le contentement par rapport à ce que vous avez maintenant. C'est correct de travailler pour améliorer la situation. Mais en tout cas, Ésaü nous impressionne ici. Dieu incline son cœur, ouvre son cœur à son frère. Et donc, ceux qui ont une entrevue d'emploi, ceux qui ont une audience à l'immigration, ne perdez pas courage, priez, priez. Dieu peut incliner mystérieusement le cœur. Et Dieu aime faire ça. Je dirais même plus, si jamais Dieu le fait pas, c'est parce qu'il a décidé de le faire ainsi. Je vais vous raconter quelque chose, j'espère que ça ne va pas vous faire peur, mais on a eu un cas quand même, je pense que ça a été plutôt rare, mais ici à l'Oasis, un frère vraiment bien aimé, Willy Séraphin, qui a fait une demande d'asile ici au Canada, il venait d'Haïti, mais ça a été refusé. Il a été déporté, ce frère, qu'on appréciait beaucoup. Et nous, on baquait sa demande. On disait, ça va faire un bon citoyen canadien. Mais le juge a décidé que non. Et j'ai aimé l'attitude de Willy. Il était évidemment déçu. Il est retourné dans un pays en grosse difficulté. Mais je suis encore en contact avec lui. Il continue à vivre dans la foi, dans l'espérance en Dieu, et il sert Dieu là où il est. Et il a pris ça comme, ben, c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Il est de retour avec sa famille là-bas. Et donc, si Dieu a ce pouvoir d'incliner les cœurs, prions-le pour qu'il le fasse, et acceptons aussi sa volonté. Quand il répond à sa prière, à nos prières, différemment de ce qu'on voudrait. Mon dernier point, Dieu fait d'Ésaü un symbole de lui-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais, premièrement, j'aimerais dire que Ésaü, c'est comme le nom chrétien dans cette histoire, le nom croyant. En fait, on peut se poser la question, et je discutais de ça avec quelqu'un, on lit toute l'histoire, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais jamais il est rapporté une seule action méchante de la part d'Ésaü. Jamais. La seule chose que l'histoire ou la Bible reproche à Ésaü, c'est qu'il n'a pas la foi en Dieu, vraiment. Il ne s'intéresse pas au plan de Dieu. Il s'intéresse à d'autres choses. En revanche, ceux qui ont la foi en Dieu dans l'histoire, comme Jacob, comme Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü, eux, ils ont la foi, oui, mais ils font des méchancetés, parfois même au nom de leur foi, parce qu'ils sont tellement attachés au plan de Dieu qu'ils font des choses méchantes que, je pense, Dieu n'approuve aucunement. Mais Dieu les utilise, mais ne les approuve pas. Ouais. Ça nous montre deux choses. Premièrement, que le peuple que Dieu crée sur la terre, puis là, ça, je parle de toi puis moi, même ici à l'Oasis, c'est un peuple de pécheurs. Alors, si tu es pécheur comme moi, écoute bien. Si tu n'es pas pécheur, mais le reste de ce que je vais dire, tu peux juste boucher tes oreilles, ça ne s'applique pas à toi. Mais en fait, on est tous pécheurs. Même Ésaü, c'est un pécheur. C'est juste qu'il... Il ne catche pas. Mais le peuple de Dieu est un peuple de pécheurs qui croit en Dieu. Toi et moi, Dieu nous invite dans sa famille pour nous guérir de la maladie du péché. Et il va nous libérer tranquillement de nos façons méchantes et égoïstes d'agir. C'est ça qu'il faut comprendre, là, que pourquoi Jacob il est tellement dysfonctionnel et Ésaü, on le voit beaucoup moins. Parfois, on remarque autour de nous que les non-croyants font des gestes, des actions plus belles, plus gentilles que les miennes, que les nôtres, que les chrétiens. Et ça, il faut l'accepter. Ça peut nous pousser à nous améliorer. Ça, c'est bien. Mais il faut apprendre à ne pas nous comparer avec sévérité, mais toujours à nous regarder à nous-mêmes. Est-ce que de la misère d'où je viens, est-ce que Dieu est en train de m'améliorer? Est-ce que Dieu est en train de me montrer mes fautes? Et est-ce que je suis en train d'être ouvert à ce qu'il m'améliore? Et puis, peu importe la personne non chrétienne qui ne semble pas avoir besoin, il a besoin, mais Dieu va s'occuper de cette personne comme lui, il veut. Ce que Dieu recherche sur la terre, ce n'est pas des Ésaü qui n'ont pas besoin du plan de Dieu, mais de gens malades qui savent qu'ils ont besoin d'un médecin. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Mais là, il y a une deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à Ésaü, c'est que Dieu se sert d'Ésaü ici, le non-croyant de l'histoire, pour faire une très, très belle œuvre. une œuvre qui a in common un écho divin, un rayonnement céleste. Dieu incline son cœur, on l'a vu, et Ésaü va maintenant refléter le Dieu de l'Évangile. La rencontre entre les deux frères va devenir une prophétie. Dieu plante autour de nous de telles prophéties dans la vie des gens, dans l'histoire, dans la nature. Et c'est des panneaux indicateurs qui peuvent aider les gens, quand ils les voient, à être sensibilisés à l'Évangile et à s'approcher. Ésaü est un tel panneau. Pensez-y un moment. Ésaü, c'est un membre d'une famille riche. Il est victime d'une injustice au niveau de l'héritage. Ce qu'un autre membre de la famille prend pour lui-même la richesse de la famille, s'en va dans un pays lointain, reste là longtemps, et à un moment donné, après plusieurs années, il revient pour demander le pardon et la grâce. Et Ésaü, la personne offensée dans la famille, qui est restée proche de la famille, lorsqu'il voit l'autre arriver, il est rempli d'amour et de compassion. Il court vers lui, l'embrasse et l'accueille en le pardonnant sur le coup. Je ne sais pas pour vous, est-ce que ça vous rappelle d'une autre histoire? Le quoi? Le fils prodigue? Je crois que j'ai entendu le fils prodigue. On va lire l'histoire. Que Jésus a raconté pour expliquer l'Évangile et expliquer comment le cœur de Dieu est. C'est dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu. » Et il est retrouvé. C'est vrai qu'il y a des différences dans les deux histoires, mais plusieurs prédicateurs au cours des siècles ont remarqué ça. Ils ont dit, en quelque part, Ésaü, il est comme une prophétie, une prémonition, en tout cas pour ce moment-là, de qui est Dieu, le Dieu qui accueille le pécheur et le pardonne. Et c'est dans ce même chapitre de l'Évangile où Jésus nous dit, il y a plus de joie dans le cœur de Dieu pour un seul d'entre nous qui revient à Dieu dans la repentance que pour 99 autres qui sont déjà revenus. Évidemment, Dieu est content qu'on reste. Mais peut-être ici, il y a quelqu'un qui veut découvrir le cœur de Dieu pour la première fois. Eh bien, Donne ton cœur à Dieu ce matin, mon frère, ma sœur. Et Dieu t'accueille avec des bras d'amour et il veut que tu lui demandes pardon pour la vie que tu as vécue sans lui jusqu'à présent. Ésaïe nous le rappelle, Jésus nous le dit en toutes lettres. Et donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, le résumé, c'est qu'il est bon de donner son cœur à ce Dieu qui prend plaisir à pardonner ceux qui viennent à lui. Viens à lui ce matin. Donne-lui ton cœur. Il est ici pour te pardonner. On va célébrer le repas du Seigneur maintenant. C'est le repas qui exprime ce pardon de Dieu le Père. Viens tel que tu es. L'histoire de réconciliation entre Jacob et Ésaü déjà nous le prophétise. Jésus, il l'a vécu. Et lui, c'était Dieu fait homme, venu pour mourir pour nous et mettre à notre portée le pardon de Dieu, amener jusqu'à nos corps, à nos cœurs, les bras d'amour de Dieu. Je pense qu'on peut arrêter là et je vous invite à la prière. Prions ensemble. Et on va fermer les yeux et si quelqu'un veut donner son cœur à Christ pour la première fois, ou si quelqu'un veut revenir à Dieu, dis-le à Dieu dans ton cœur. Et si tu veux même, lève la main vers le ciel comme signe que tu fais cette démarche sérieusement ce matin, parce que tu crois. Ô Père de gloire, merci parce que tu as planté dans la Bible des signes que l'Évangile venait. Et aujourd'hui, ici à Montréal, en 2023, on proclame ce message de la grâce gratuite, ce message que n'importe qui entend et qui croit peut venir et recommencer sa vie avec toi, recevoir le pardon. Père, je prie que chaque personne, quel que soit leur âge, à chaque personne qui prend le pain, boit la coupe aujourd'hui, que ce soit parce qu'ils sont en train de te dire, Dieu, je reviens à toi. Je te donne tout. Je prie que tu nous aides, Seigneur, à vivre ce moment spécial de communion avec toi et les uns avec les autres. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est confus, qui ne sait pas quoi croire, qui ne sait pas comment se sortir de sa difficulté. Saint-Esprit, viens l'aider. Montre-lui à qui parler. Montre-lui à quelle porte frapper. Oh Père, on te remet chacun et on te remet ce moment. Au nom de Jésus. Amen.